Bonsoir, c'était l'heure des auditions ce soir à Berne pour les candidats au Conseil fédéral. Un examen oral qui peut faire et défaire une carrière politique. Nous demanderons à deux élus alémaniques ce qu'ils ont pensé, en particulier des candidats romands du PS, Alain Berset et Pierre-Yves Maillard. Pierre-Yves Maillard qui joue l'offensive aujourd'hui avec une lettre à tous les parlementaires. Il insiste sur l'assainissement des finances, la capacité au compromis. On verra s'il a séduit nos deux examinateurs de droite. Quant à Evelyne Widmer-Schlumpf, son avenir s'éclaircit, c'est ce que viendra nous dire également Vincent Bourquin. Il est en direct avec nous du studio du Palais fédéral. Nous recevrons dans ce forum le représentant des musulmans vaudois. Ils sont inquiets, les musulmans vaudois, après plusieurs refus de leur projet de mosquée. Ils en appellent à une table ronde cantonale. On entendra l'appel de leur vice-président, Pascal Gemperli. Le président de Grand Montana Tourisme, lui, aura la douloureuse tâche de réagir à une étude très sévère. Le Crédit Suisse a noté les stations de montagne, championne Zermatt, et parmi les cancres, Grand Montana. Comment réinventer une station face notamment à la concurrence de l'Autriche? Hubert Bonvin nous répond, et ce sera dans une vingtaine de minutes. Deux historiens également avec nous, 18h30, pour évoquer le général Guizan, qui a gardé sa place dans le cœur des Suisses, ou du moins parmi ceux qui l'ont élu roman du siècle, c'était samedi dernier. Les années, les ouvrages historiques n'ont pas écorné, semble-t-il, la figure du général. Mais parle-t-il encore aux jeunes, ce général Guizan? Quelle est la part de l'histoire, celle de la reconstruction à des fins de propagande? Olivier Meuvely, Christian Favre, les deux historiens, s'ils sont avec nous dans quelques minutes. Enfin, un grand débat franco-allemand pour conclure ce forum, ou plutôt un débat européen, tant ce couple résume à lui seul l'Europe d'aujourd'hui. On parle de directoire pour brocarder cette France-Allemagne qui décide seule de l'avenir du continent. On évoquera le retour des préjugés germanophobes, cette Europe allemande que certains redoutent, une Europe divisée aussi entre la zone euro et les autres. Avec nous, un Français, le correspondant de Libération, Jean Quatremer, l'expert allemand Joachim Vaname, et puis le professeur Gilbert Casassus, ici une tribune dans Marianne aujourd'hui. Peut-on critiquer la politique allemande et être germanophile? On tentera de répondre également à cette question. La limite pluie-neige passera de 600 à 1000 mètres. Demain après-midi, il fera 7 degrés au maximum. La météo de Sébastien Dupéret, 18h58.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Tous les groupes parlementaires se sont réunis cet après-midi. Objectif, mettre au point la stratégie pour l'élection au Conseil fédéral la semaine prochaine, le 14. Plusieurs groupes ont également auditionné les deux candidats UDC, Bruno Zuppiger et Jean-François Rim, ainsi que les deux candidats socialistes, Alain Berset et Pierre-Yves Maillard. Et Vincent Bourquin, vous êtes au Palais. On peut conclure ce soir que les chances de réélection pour Evelyne Widmer-Schlumpf sont plutôt bonnes.
Oui, ce soir, ça va plutôt bien pour la grisonne. Les socialistes viennent en effet de décider à l'unanimité de la soutenir le 14 décembre. Et puis, la grande majorité du PDC a également décidé de voter pour Evelyne Widmer-Schlumpf. Le PDC, c'est intéressant, a aussi décidé qu'il revoterait pour Johann Schneiderman. En effet, il considère que l'UDC a droit formellement à deux sièges, mais il ne veut plus d'éviction de conseillers fédéraux sortants. Et donc, l'UDC devra attendre soit le départ d'un radical ou alors d'Evelyne Widmer-Schlumpf d'ici quelques années. Et concernant justement l'UDC, le PS donne jusqu'à mardi à ce parti pour dire c'est l'attaque, un siège PLR. Et ce que l'on a appris, c'est qu'en fait la grande majorité du PS soutient Christian Levrat, qui considère lui que l'UDC a droit à deux sièges et donc qu'il faudrait faire élire Monsieur Bruno Zuppiger face à Johann Schneider-Hamann. Et pour les Verts, alors les deux socialistes sont éligibles, ils n'ont pas donné leur préférence. Par contre, ils ont décidé qu'ils n'auditionneraient pas l'UDC la semaine prochaine, et donc qu'ils soutenaient eux aussi très clairement Evelyne Widmer-Schlumpf. Et pour terminer ce premier tour d'horizon, du côté du PLR, tous les candidats qui ont été auditionnés aujourd'hui sont éligibles. Le parti veut la concordance, mais si tout à coup certains partis ne soutenaient pas cette concordance, alors éventuellement la semaine prochaine, le PLR pourrait changer d'avis.
Ah, Vincent Bourquin, tous les regards, vous l'avez dit, sont tournés vers l'UDC. Que vont-ils faire?
Alors ce parti est divisé. Pour l'aile dure, notamment incarnée par Christophe Blocher, il faut attaquer uniquement Evelyne Widmer-Schlumpf. Et puis si elle est réélue, alors on s'arrête là, on n'attaque pas le PLR. Certains membres aimeraient carrément que Uli Maurer, à ce moment-là, quitte le Conseil fédéral parce que, disent-ils, on ne veut pas être dans un gouvernement du centre. Mais d'autres au sein de l'UDC s'y opposent. Ils disent que si Uli Maurer n'est plus là, s'il n'y a plus de conseiller fédéral, il y aura un problème au niveau de l'information. Et puis il y a aussi aussi un certain nombre de personnes au sein du DC, ils sont nombreux mais moins influents, qui trouvent qu'il faudrait attaquer le siège radical parce qu'ils se demandent sinon comment expliquer à la base le fait qu'on a la possibilité d'avoir un deuxième élu avec Bruno Zuppiger, mais qu'on n'en profite pas en n'attaquant pas le radical Johann Schneiderman.
Alors concernant les socialistes, on l'a dit, Alain Berset et Pierre-Yves Maillard ont été auditionnés par les Verts libéraux, le PLR et l'UDC. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis globalement ?
Alors les deux s'en sont plutôt bien sortis, mais Pierre-Yves Maillard, qui exceptionnellement, c'est la première fois que je voyais ça, avait mis une cravate, s'en est particulièrement bien sorti. Du côté des Verts, on nous a clairement dit que sa cote était à la hausse. Sa cote est également à la hausse du côté du PLR. Impassablement de gens là, le connaissaient pas et ont été surpris en bien par le Vaudois.
Pierre-Yves Maillard qui, outre la cravate, a aussi écrit une lettre à tous les élus du Parlement.
Oui, tous les élus ont trouvé ce matin dans leur casier une lettre qui s'appelait « Une candidature pour proposer des réformes ». Elle était écrite par Pierre-Yves Maillard. Il nous a expliqué que comme il n'avait pas l'accès à ses 246 membres, il avait décidé de leur dire un peu quels étaient ses projets. C'est une lettre assez politique. C'est aussi une lettre où il insiste sur sa volonté de la recherche du compromis, où vraiment il montre aussi qu'il est un homme d'exécutif. Et c'est vrai que c'est l'argument qu'il utilise régulièrement face à Alain Berset. Alors de manière générale, cette lettre a été assez bien accepté, pas par tous, hein, parce qu'il y a par exemple un nouvel élu roman dont le nom est alémanique pardon, et qui a reçu la lettre en allemand. Il ne l'a pas du tout apprécié. Il a dit du coup, je ne voterai pas pour Pierre-Yves Maillard. Oui. D'autres du côté du PLR nous ont dit, on ne l'a même pas lu. Mais du côté du DC, plusieurs personnes ont trouvé très intéressant cette lettre, une lettre encore une fois très engagée.
Vincent Bourquin, merci.
Avec nous, deux invités qui ont pu assister à ces auditions, une sorte d'examinateur, on va les appeler comme ça. Doris Fiala est avec nous, libérale radicale zurichoise.
Bonsoir.
Et puis Hans Fehr, UDC zurichois, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors on connaît bien les deux candidats socialistes en Suisse romande, on va commencer avec ça. Doris Fiala, peut-être un peu moins en Suisse alémanique. Quelle impression les auditions d'Alain Berset et de Pierre-Yves Maillard ?
Bon, il faut dire qu'effectivement, beaucoup de membres du PRL, ils ont eu la première fois la possibilité d'écouter M. Maillard. Ils connaissaient peut-être un tout petit peu M. Berset, mais c'est vrai que les deux ont fait une bonne impression. C'est clair que pour le Parti radical, ils ne sont pas libéraux dans notre sens, mais ça c'est la concordance, il faut bien l'accepter si on veut sauvegarder la concordance. Mais en tout cas, M. Maillard, il s'est montré comme homme d'État expérimenté. Et c'est vrai que M. Berset, il s'est montré souriante avec un certain charme. Il était conciliante et puis les deux, ils se sont bien battus.
À votre avis, qui a remporté cet examen oral ?
On ne pourrait pas dire, c'est encore trop tôt. Pour moi, personnellement, c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Vous savez, 30 minutes, c'est très peu de temps. Ils avaient 5 minutes pour parler. Après, on a posé des questions. On a posé des questions en allemand, en français, et puis même pour certains candidats en anglais. Ce qui prime pour moi, c'est d'avoir un vrai leader, un homme qui pourrait vraiment mener pour notre pays aussi dans des temps en difficulté, dans des temps de crise, et non pas seulement quelqu'un qui a peut-être une expérience sans grand drame, si vous voulez. Je pense que ça, c'est très important. Et ça, évidemment, dans un interview comme ça, on ne pourrait pas encore juger.
Vous dites qu'il faut un leadership, une expérience de certaines difficultés. Ça ne fait pas pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Je pense qu'on avait trop peu de temps pour vraiment justifier un vrai jugement. Je pense que c'est la concordance qui prime. Le Parti radical a toujours soutenu la concordance. Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu inquiète si je vois ou si j'entends ce que M. Levra parle de la part de son parti. Ça vaut ce que ça vaut parce qu'on a l'impression qu'il change d'avis à peu près tous les quelques semaines.
Ouais, c'est Doris Fiala, on va en parler tout à l'heure, on parle là du sort de Winnie Merschlung, Jan Schneiderman plutôt, mais pour rester d'abord sur les deux, le duel socialiste, Hans Fehr, Alain Berset, Pierre-Yves Maillard, vous les avez entendus les deux, mis sur le grill, il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Alors écoutez, le problème est vraiment, on était en retard, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu Alain Berset pendant une demi-heure, et malheureusement j'ai pu saluer encore Pierre-Yves Maillard, mais c'était tout. Ma première impression était Alain Berset, comme l'on connaît, élégant, diplomate, etc. Pierre-Yves Maillard, quand il nous a salué, un homme énergique depuis le premier mot. Je crois qu'il sait conduire, mais pour moi, c'est un socialiste pur. Et Alain Berset, c'est plutôt le diplomate, le social-démocrate. Et l'autre, c'est socialiste.
Donc on comprend
alors, je
mieux,
peux non plus juger sur les deux. Mais une question qu'on a posée à Alain Berset à la fin de la session, c'était comment est-ce que vous pouvez... comprenez-vous la stratégie de votre parti qui ce matin a annoncé qu'elle veut élire Madame Wittmer Schlumpf, alors vous êtes contre la concordance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas répondu clairement.
Et Pierre-Yves Maillard, vraiment, vous avez juste pu le saluer? Ça s'est résumé à ça, l'audition?
Oh, c'est tout. Écoutez, Maillard, pour moi, c'est un homme énergique, comme je le connais depuis dans les années passées, quand il était au Parlement déjà. Mais j'ai vu toujours à la télé, etc. Vraiment, il sait conduire. C'est un homme énergique. Mais Alain Berset aussi est un homme, il sait qu'il veut. Et peut-être c'est le bilan un peu équilibré.
Hans Ferme, on devine, quand vous parlez de Pierre Maillard, un peu trop à gauche pour vous, c'est juste?
Oui, il est très à gauche. Mais de l'autre côté, Alain Berset était un des conspirateur, si vous voulez, contre pour la non-élection de Blocher, il y a 4 ans.
Ça va jouer un rôle au sein du groupe.
Oh, peut-être, on verra.
Encore une question, Doris Fiala, vous êtes libérale radicale. La lettre de Pierre-Yves Maillard, qui insiste beaucoup sur sa capacité au compromis, sur l'assainissement des finances dans le canton de Vaud. Il est contre le libre-échange agricole, ça plaira peut-être plus à Hans Fer, un peu moins à vous. Et puis, il dit aussi l'aide sociale est trop aujourd'hui dans une logique d'assistance. D'habitude, c'est plutôt chez les libéraux qu'on entend ça. Il fait des efforts dans votre sens, ça vous plaît, au fond, ce qu'il dit dans cette lettre?
Vous savez, la lettre, c'était une très belle stratégie de relations publiques. Je pense d'ailleurs que c'est tout à fait valable, on peut le faire. Et c'est vrai, puisqu'on l'a pas connu avant à Berne, et moi personnellement, je l'ai jamais entendu avant, c'était assez positif de pouvoir lire à peu près ses idées, ses opinions. Il savait qu'il pouvait parler uniquement 5 minutes auprès de notre parti, donc on pouvait se préparer un tout petit peu plus. Et c'est vrai, c'est un homme qui est déjà exécutif, qui certainement sait conduire. J'avais l'impression qu'il sait ce qu'il se veut, mais qu'il pourrait faire des compromis aussi, justement, vous l'avez mentionné, en ce qui concerne les affaires sociales. On était certainement étonnés en bon qu'il était capable de se montrer un tout petit peu plus dur. Voilà, et puis pour lui, c'est pas uniquement des promesses, il a montré dans le canton de Vaud qu'il était capable de le faire.
Hans Fer, jusqu'à quel point ces auditions peuvent vraiment faire peser la balance? Là, vous les décrivez, on a l'impression de quelque chose de pas très organisé. Vous avez juste eu le temps de saluer, pas vraiment des questions à Pierre Maillard. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que vraiment on peut se forger une opinion ou est-ce que ce n'est pas décidé d'avance?
Ah, je dirais que c'est un élément. Mais ça peut être à 30%, ça peut être à 20%, mais pas plus. Parce qu'il y a l'ensemble d'une personne, d'un politicien qui joue un rôle, et naturellement, on connaît assez bien Alain Berset, et connaît pas tellement Pierre-Yves Maillard, mais on les voit à la télé, on voit un peu partout dans les débats. Mais pour moi, afin de dire celui-là ou celui-là, c'est pour nous très important que le Parti socialiste respecte notre droit d'avoir 2 sièges au Conseil fédéral. Ça, c'est la question de base.
Et alors justement, Hans Fer, on va parler du sujet suivant. Vous l'avez dit, hein, Christian Levrat est pour réélire Evelyne Wilmer-Schlumpf, comme d'ailleurs les Verts, comme le PDC. Mais Christian Levrat dit, on veut bien vous donner un siège à l'UDC, mais il faut que vous disiez clairement, on attaque le siège libéral, celui de Johann Schneider-Hamann. Vincent Bourquin nous disait, vous êtes un peu divisé sur la question au sein de l'UDC. C'est quoi votre position à vous?
Non, ma position tout à fait claire, et aussi c'est la position de mon parti, je dirais, on veut vraiment maintenir et respecter la concordance. C'est très important pour la stabilité de la Suisse. Désormais, on a des grands problèmes à résoudre un peu partout, n'est-ce pas? Il y a le problème économique mondial même, et le poste de travail, etc., tout ça. On a l'immigration, je dirais, incontrôlée, etc. Alors pour cela, on ne peut pas exclure le plus grand parti, partiellement ou totalement.
Oui, alors ça veut dire que vous voulez qu'on élise un UDC à la place d'Evelyne Wilmer-Schlumpf. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites?
Je peux pas vous dire. C'est la deuxième ligne. Mais premièrement, on se concentre sur la non-élection, la non-réélection de Madame Wittmer Schlumpf. à cause des raisons que je viens de dire. Et deuxièmement, c'est au groupe UTC de prendre une décision, mais pas avant. Et s'il y a une stratégie, il ne faut jamais la mettre sur la place du marché. Autrement, ce n'est plus une stratégie.
Non, mais les socialistes, ils veulent que vous la mettiez sur la place du marché. Ils disent sinon, ça ne tiendra pas.
Mais on ne peut pas nous forcer. Hein. Ils doivent faire leur devoir et après les nôtres.
Je vous remercie beaucoup, Hans Fehr et Doris Fiala, d'être venus avec nous en direct du Palais fédéral pour commenter. La tension monte dans cette campagne pour le Conseil fédéral. On voit bien les fronts qui bougent. Vincent Bourquin, c'est quoi votre impression ce soir au terme de cette première grande journée assez importante dans cette campagne?
Alors effectivement, comme Hans Fehr l'a dit, on s'observe hein, actuellement, tout le monde ne met pas tout sur la table, mais quand même ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'Evelyn Wilmer-Schlumpf a clairement le soutien du PDC ce soir et aussi le soutien de Johann Schneiderman. On a l'impression ce soir qu'on est plutôt du côté du statu quo et que ça se passe aussi assez bien pour Johann Schneiderman, mais on sent aussi que du côté de l'UDC, on met une forte pression sur tout le monde, aussi un peu avec cette peur du vide, en disant si vous n'élisez pas un de nos candidats, alors on pourrait se retirer, et c'est vrai que ça fait peur à passablement de politiciens, en disant, mais alors, on remplacerait par qui ce représentant de l'UDC, et c'est vrai qu'il va y avoir encore beaucoup de pression ces prochains jours, et ça va être très très intéressant, jusqu'au 14 décembre, au matin.
Juste un mot, Vincent Bourquin, les socialistes Alain Berset, Pierre-Yves Maillard, on a vu ce qu'en pensaient deux élus de droite, vous avez quelle impression ce soir, il y a eu cette lettre de Pierre-Yves Maillard, on en est où dans les chances des uns et des autres?
Alors Alain Berset probablement reste favori, mais c'est vrai que Pierre-Yves Maillard a marqué beaucoup de points hein, lors de ses auditions dans les différents partis. Doris Fiala l'a dit, mais j'ai eu la possibilité de discuter avec d'autres membres du PLR qui ont vraiment été surpris. Certains qui m'ont dit, nous pensions voter pour Alain Berset et on pourrait changer d'avis. Et c'est vrai que je pense que peut-être qu'Alain Berset a cru que c'était peut-être un petit peu trop joué, alors qu'on a senti un Pierre-Yves Maillard extrêmement bien préparé.
Vincent Bourquin en direct du Palais fédéral. Merci beaucoup.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Avec nous, Pascal Gemperli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'UVAM, l'Union Vaudoise des Associations Musulmanes. Vous êtes inquiet ce soir, hein, inquiet par trois décisions récentes pour votre communauté, notamment à Yverdon, la communauté albanaise qui a dû quitter ses locaux, le bail n'est pas renouvelé. À Vevey, une demande de crédit refusée pour rénover la mosquée. À Payerne, on a refusé le permis de construire pour transformer des anciens bureaux en mosquée. Vous, Pascal Gemperli, votre association, l'Union Vaudoise des Associations Musulmanes, vous avez l'impression que tout ça, c'est lié, tous ces éléments sont liés, il y a une sorte de défiance contre vous?
Bon, de toute façon, on veut accuser personne, mais on constate il faut pas faire beaucoup d'études pour comprendre qu'il y a une sorte de méfiance générale envers tous les projets qui concernent les musulmans. Ça, je pense, c'est assez connu. Maintenant, individuellement, chacun de ces cas peut se comprendre. Il y a un bail qui est pas renouvelé, il y a non entrée en matière par le conseil communal, un refus de la municipalité. Tout ça peut se comprendre individuellement, mais tout, en fait, la totalité, ça commence à faire beaucoup.
Oui, mais en même temps, si tout se justifie, tout s'explique par des arguments, des critères à chaque fois, il n'y a pas vraiment de lien entre tous ces événements. Plus vraiment de besoin de faire une table ronde.
Si, tout à fait. Il y a la nécessité de faire une table ronde, de communiquer, de se faire comprendre, parce qu'on pense justement qu'il y a une sorte de méfiance générale, un manque de compréhension mutuelle. Qui fait donc on se pose la question, est-ce que cette méfiance et ce manque de compréhension, est-ce que ça a eu un impact sur les décideurs directement ou indirectement, parce qu'on veut aussi faire plaisir à la population, ce qui est tout à fait normal.
Est-ce qu'il y a un problème de communication entre les musulmans en terre vaudoise et les élus au niveau local, régional, problème de compréhension peut-être?
Oui, nous on a commencé à faire beaucoup de travail dans ce sens. L'UVAM a été fondée en 2004, on a fait beaucoup de travail à l'interne, consolidation interne, et puis depuis surtout la votation contre les minarets, on a compris qu'il faut vraiment aller de l'avant, il faut vraiment être visible, expliquer, etc. Et depuis 2009, on fait ça beaucoup, mais il y a quand même encore une sorte de méfiance, mais aussi un manque de compréhension. Si vous lisez l'article qui est sorti dans 24 heures, il y a une journaliste qui a interviewé une personne du quartier, et cette personne, elle dit qu'on préfère ne pas avoir une mosquée parce qu'on veut avoir le dimanche matin tranquille. Enfin, il n'y a rien du tout à la mosquée le dimanche matin.
Vous percevez, oui, le problème de communication et de compréhension au fond. Mais est-ce que vous percevez vraiment, vous arrivez à mesurer la différence de climat avant la votation contre les minarets et après? Parce qu'on pourrait penser que la population suisse, après le vote, est plutôt rassurée. C'est bon, il n'y aura pas de minarets. Pour le reste, on est d'accord. Ce n'est pas ça qui se passe. Le climat est détérioré.
Non, mais les minarets, la question n'est pas du tout autour du minaret. La question est autour, en général, de la présence musulmane.
Mais depuis le vote, le climat est pire qu'avant.
Bon, c'est difficile à mesurer. Là, on est dans les sciences sociales. C'est difficile à mesurer de manière quantitative. Par contre, je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt la votation sur les minarets, ça a fait sortir les musulmans du bois. En tout cas, ici dans le canton de Vaud, on bouge énormément depuis. On fait beaucoup de contacts avec les autorités. On fait beaucoup de justement travail des médias, etc. Et normalement, ça a dû améliorer depuis qu'on fait ça. Donc, je pense normalement, ça doit être plutôt dans ce sens-là. En fait, avec un peu de recul, je trouve que cette votation contre les minarets est plutôt bien pour nous, dans le sens que nous, on a vraiment commencé à bouger.
Pascal Gumperli, justement, on en parlait dans la campagne sur les minarets. Les gens disaient, on entendait des politiques vaudois le dire, protestants, mais les catholiques ont attendu des dizaines d'années pour pouvoir avoir des lieux de culte en terre vaudoise. Il n'y avait pas de clocher, c'était interdit.
Il y a 100 ans.
Voilà,
là,
justement.
On est en 2000,
et puis,
2011.
L'argument, c'était, il faut attendre, il faut s'acclimater, ça prend du temps, il faut s'apprivoiser. Vous entrez dans cette logique-là, il faut du temps long, ça prendra des années, puis un jour, ça ira.
On parle des minarets ou
de mosquées.
Ah non, les mosquées, on peut pas. De toute façon, il y a déjà plein de mosquées là. Je veux dire, on n'est pas dans cette.
Elles sont très peu visibles. Hein. Vous êtes souvent dans les zones industrielles. On vous donne les locaux un peu qui restent.
Ouais, c'est justement faux. C'est justement le problème parce que les mosquées veulent être ouvertes, veulent être accessibles et aux musulmans et aux autres qui s'intéressent, les personnes qui s'intéressent, qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi une mosquée, aux autorités. Donc c'est pour ça qu'on veut pas que ça soit placé en zone industrielle. C'est une stigmatisation en fait. On dit qu'on vous veut pas en ville, donc allez en zone industrielle.
Et puis les politiques, ils ont répondu, votre envie de table ronde, vous attendez quoi d'eux exactement?
Bon, on attend qu'il y ait une présence, on va inviter, en fait on n'a pas encore ficelé totalement, mais on va inviter en tout cas la municipalité de Payerne, peut-être il y a des opposants qui sont intéressés à participer,
le conseil d'État.
Écoutez, je ne sais pas s'ils vont venir.
Vous n'invitez pas le conseil d'État.
On ne va pas refuser.
On va leur poser
la question. On va y réfléchir. Vous le dites maintenant, on va y réfléchir.
Ils nous écoutent. Merci beaucoup, Pascal Gumperli. Vous êtes le vice-président de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Une bonne soirée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le Crédit Suisse a publié aujourd'hui les résultats de son étude sur la santé économique du tourisme en Suisse, en particulier le tourisme hivernal. Les stations de ski ont été passées à la loupe. Zermatt et Saint-Moritz sont en tête de ce classement des 31 meilleures destinations, leur offre correspondant au mieux à la demande des vacanciers. Et puis bien derrière, à la traîne, la station Valaisanne, elle est pourtant bien connue, de Crans-Montana.
Avec nous, le président de Crans-Montana Tourisme, justement, Hubert Bonvin, bonsoir.
Bonsoir.
Mauvaise nouvelle, hein. C'est pas une tuile qui vous tombe dessus, cette étude?
Non, c'est pas une tuile. Je crois que dans la mesure où il faut apprécier les chiffres et donner une indication précise à ceux-ci, parce que on tient compte surtout dans cette analyse que je viens de découvrir aujourd'hui d'ailleurs, du recul un petit peu des nuitées hôtelières. Alors qu'on se rend compte que de notre côté, depuis 1999, on a très très peu évoluer dans la baisse au point de vue hôtelier, si on tient compte de toutes les résidences secondaires, appartements et para-hôtelleries que nous avons dans cette station de Crans-Montana.
Dans votre station, dans les stations en général, Hubert Bonvin, le Crédit Suisse pointe un peu le problème des hôtels. Hein. Soit il n'y a pas assez de lits, soit alors ils ne sont pas au niveau de leurs étoiles.
Tout,
peut,
tout
général.
À fait. Alors nous, on peut dire que de ce côté-là, on a la chance d'avoir eu maintenant la naissance de quelques hôtels de prestige, 5 étoiles et équivalentes. Malheureusement, et c'est vrai, depuis quelques années, on peut constater une baisse, une régression. Il y a eu des pourcentages assez éloquents. Avant, on avait 60, 70 hôtels à une bonne époque. Maintenant, on en a exactement 28, dont 5 étoiles et 10, 4 étoiles. Mais évidemment qu'il nous faudrait une offre hôtelière un petit peu plus étoffée, ça c'est sûr.
Et dans tout le reste, l'image en général, Hubert Bonvin, on vous brocarde un petit peu en disant que Crans-Montana, c'est Roger Moore, et puis Verbier, par exemple, c'est James Blunt aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un rafraîchissement d'image à faire dans votre station?
Ah ben, je crois qu'il faut, oser se remettre en question. On se remet en question. On n'a pas peur, quelquefois, de se dire, effectivement, qu'il faudrait un peu plus d'inspiration, il faudrait susciter l'envie. Il faut s'améliorer. Et s'améliorer ne veut pas dire que c'est une régression. Au contraire, on a joué la transparence. Malheureusement, ça n'a pas été transmis comme il le fallait à la télévision romande. On a donné plutôt les points positifs, mais on s'est remis en question et on sait que nous devons maintenant faire vraiment réagir pour le futur, parce que nous avons tous les atouts pour faire en sorte que Grand Montana redevienne. C'est vrai qu'il y a les nostalgiques d'antan. Il y avait plus de vedettes, mais il y a quand même pas mal maintenant qui viennent chez nous. On a des joueurs de golf de classe, Adam Scott, Garcia, il y en a d'autres qui sont ici sur le haut plateau et qui ont un énorme plaisir d'y séjourner.
Alors, on se fait un peu la guerre des célébrités, Hubert Bonvin, en Valais.
Pardon ?
On se fait la guerre des célébrités, à chacun les siennes.
Ben écoutez, je ne crois pas que c'est la guerre des célébrités. Pour nous, on a surtout un haut plateau où l'accueil est le point fort, qualité de l'accueil, également infrastructure touristique. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts, pour les familles, pour l'hiver, pour l'été. Et au point de vue manifestation, avec les championnats, les Coupes du Monde de ski, l'Omega European Master, le Terrific, le Capri Festival pour les jeunes. Donc on pense aussi à ouvrir des créneaux pour les plus jeunes. Et si vous êtes aujourd'hui à la station de Grand Montana, ben elle est illuminée totalement. On a heureusement, comme les autres stations, maintenant 10 à 15 centimètres sur le en station et pas mal de centimètres sur les hauts.
Voilà, vous l'avez placé.
Et ici, la station est magnifique.
Bah, c'est noté, Hubert Bonvin, président de Grand Montana Tourisme. Vous avez placé le message ce soir. Une excellente soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
À Moscou, partisans et opposants au parti du Premier ministre Vladimir Poutine manifestaient ce soir dans la capitale russe, sur la même place du centre de la capitale. On retrouve tout de suite Madeleine Leroyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante sur place, Madeleine. Vous avez suivi ces manifestations. Vous avez pu constater qu'il y avait deux poids deux mesures. La police russe interpellait les sympathisants d'opposition qui protestaient contre la victoire législative du parti pro-Poutine, et tandis qu'elle a laissé faire du côté des pro-gouvernements. Ambiance un peu surréaliste là.
Oui, complètement surréaliste. Enfin, c'était manifestement le tableau d'une fracture, avec effectivement d'un côté, au centre de cette place triomphale, les jeunes pro-Kremlin, les nachis avec tambours, drapeaux, slogans belle légende, Poutine a de l'avenir, la Russie est éternelle, et puis de l'autre, refoulés des quatre côtés de la place par la police anti-émeute, ces manifestants anti-fraude, vraiment repoussé sans ménagement, arrêté, matraqué, pendant que de l'autre côté du cordon de police, eh bien, les jeunes pro-Kremlin continuaient à faire du bruit et à chanter et crier leur slogan. C'était vraiment un déploiement de force exceptionnel. Toute la journée, des véhicules de ce qu'on appelle l'armée intérieure, hein, ce sont des militaires sous tutelle du ministère de l'Intérieur, ont convergé vers le centre-ville pour prêter main forte aux unités anti-émeutes traditionnelles. On peut dire que cette victoire entachée de Russie unie accouche ce soir d'une désunion, avec d'un côté ce visage très officiel que l'on voit d'ailleurs à la télévision en ce moment même, de ces jeunes pro-Poutine, et puis de l'autre ces opposants matraqués qui sont eux visibles uniquement sur Internet.
Madeleine Leroyer, notre correspondante en Russie, je vous remercie, bonne soirée.
Alexis Prokopiev est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'opposition russe, vous nous appelez de Paris. On entre dans une nouvelle ère du régime Poutine avec beaucoup plus de contestations, peut-être qu'il se sent un peu encouragé par le résultat des élections.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la contestation dont parle Madeleine Leroyer, qui est sur place à Moscou, dans le centre-ville, elle se voit aussi beaucoup sur Internet. On voit une grande masse de population qui parle sur Facebook, qui parle sur Twitter, qui parle sur Vkontakte, et des gens, surtout, qui, avant, n'étaient pas dans ce microcosme politique toute une classe de population, la nouvelle classe moyenne qui est connectée, qui est mobile, qui est jeune, qui est dynamique, qui a été déçue par le fait que Poutine souhaite revenir au pouvoir, et qui s'est jointe non seulement aux manifestants hier et aujourd'hui, mais qui aussi fait savoir son opposition et dénonce les fraudes grâce à Internet.
Alexis Prokopiev, dès qu'on mentionne les réseaux sociaux, tout de suite ça renvoie aux révolutions arabes, au printemps arabe. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait naître quand même en Russie, une espèce de contestation qui utilise d'autres moyens, notamment ces réseaux sociaux, une jeunesse un petit peu plus engagée? Il y a un changement sociologique qu'on peut percevoir là?
Il faut rester prudent par rapport aux raccourcis qu'on peut faire, parce que on voit très bien que aujourd'hui l'impact et la grandeur, disons, du mouvement n'est pas aussi important que dans les révolutions arabes. Mais c'est clair que Internet et surtout les smartphones, la possibilité de faire une photo et de l'envoyer sur Twitter en quelques secondes, est un outil formidable pour l'opposition. Mais cet outil ne serait rien, je me permets de le répéter, s'il n'y avait pas une vraie désaffection dans une partie de la population envers le pouvoir en Russie. Et on le voit aussi dans les sondages, notamment du centre Levada, il y a une vingtaine, 20% de la population à peu près, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, qui espérait que Medvedev allait se présenter à la présidentielle et qui a été complètement déçu, qui voit aujourd'hui que le pays est dans une impasse, qu'il n'y a pas de changement. Et donc, cette population-là s'exprime à sa manière, comme ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de s'exprimer avec leur smartphone, avec Twitter, avec Facebook, avec Vkontakte, avec LiveJournal. Alors, ce n'est pas nouveau que les opposants utilisent les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Par contre, voilà, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des gens normaux qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui sur Twitter, une personne a mis ma chef vient d'entrer dans notre bureau, elle nous ordonne d'aller tout de suite à la manifestation de soutien à Russie Unie, c'est dégueulasse. Voilà, il y a des genres de messages où, par exemple, je viens de voter, les résultats de mon bureau de vote sur Internet ne correspondent pas à mon vote. Donc, par exemple, parce que le parti pour lequel la personne venait de voter avait zéro voix, alors qu'elle savait très bien qu'elle avait mis, pour qui elle avait voté, elle avait mis le bulletin dans l'urne. Et justement, pour dénoncer les fraudes, Twitter est un outil formidable. Les gens publiaient les images des fraudes en direct toute la journée de dimanche.
Alors, témoin effectivement de cette désillusion, cette déception vis-à-vis de Poutine que vous décrivez, à qui est-ce que ça peut profiter ? Il y a une alternative crédible politiquement à qui tout cela pourrait profiter ?
Alors, dans les urnes, l'opposition démocratique qui est représentée, la majorité des experts, par le seul parti Yabloko, n'a pas réussi à avoir de siège au Parlement. Toutefois, on voit que la mobilisation aussi bien dans la rue que dans les médias, donc dans la population, dans les nouveaux médias, donc dans la population, est forte. Pour l'instant, c'est très difficile de faire des scénarios, mais aujourd'hui, on commençait déjà les appels de la part des principaux leaders politiques de l'opposition anti-système et de certains leaders politiques de l'opposition qui est dans le système à l'unité. Donc l'appel, aujourd'hui, tous les appels, c'est unité, unité, unité de l'opposition. L'opposition qui est aujourd'hui morcelée, qui est tiraillée entre les démocrates qui défendent les droits de l'homme, les libertés, et les opposants à Poutine qui sont plutôt dans le camp des nationalistes. C'est le cas notamment du célèbre blogueur et avocat Navalny, qui vient d'être condamné notamment à 15 jours de prison pour avoir manifesté hier. Donc pour l'instant, il sera intéressant de suivre déjà qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les manifestations vont continuer ou pas, et qu'est-ce qui va advenir de l'opposition russe. Est-ce qu'il y aura une tentative d'unification ou est-ce que le morcellement va continuer ?
Merci beaucoup Alexis Prokopiev, vous êtes spécialiste de l'opposition russe en direct de Paris. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Et puis un historien nous a rejoint, on va parler d'histoire suisse tout à l'heure. Olivier Meuvy, vous suivez un peu ces événements de Russie, ça vous intéresse ? Vous dites là aussi l'histoire en marche ?
Oui, sans doute, bien sûr que ça m'intéresse. Je crois que tous les événements autour de la Méditerranée en Russie, il y a des développements qui se font et ça peut qu'intéresser l'observateur de l'histoire politique. Car en effet, je ne sais pas si l'histoire est en marche. En tout cas, des éléments nouveaux s'entrecroisent et ça peut aussi, par effet de miroir aussi, donner beaucoup d'informations sur comment nous vivons et nous ressentons la démocratie.
Avec vous, on va parler d'un moment de l'histoire suisse mythique, presque tout à l'heure. Juste avant ça, on va faire une petite interlude sportif. On va se rendre immédiatement au Canada, Beaver Creek, Coupe du Monde de ski, slalom géant, oui, Colorado, États-Unis. Attention, Beaver Creek, slalom géant masculin. Premièrement, vous êtes avec nous en direct, Patrick Delétro. Où en est-on ?
Eh bien écoutez, la première manche n'est pas tout à fait terminée. Côté suisse, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Mais pour l'instant, c'est le jeune français Alexis Pinturo, 20 ans, hein, pur talent, pur géantiste, qui est en tête devant l'Autrichien Marcel Hirscher et le Norvégien Axel Lund Svindal. Ted Ligeti, grand favori, est quatrième. Et puis alors côté suisse, Carlo Janka qui souffre encore beaucoup, mais vraiment beaucoup du dos, on le voit, c'est marqué sur lui quand il passe l'arrivée. Carlo Janka est quand même 11e, Didier Kuch 18e. Pour les autres, il faut aller chercher beaucoup plus loin dans le classement. Beat Feuth est 23e, Marc Berthaud 29e, il espère rester en deuxième manche. Les autres ne sont pas qualifiés. Reto Schmidiger 31e, Sandro Vellita 32e, Didier Defago 37e et puis Daniel Albrecht, lui, a manqué une porte et a donc été éliminé. Donc Alexis Pinturo, le français, en tête de cette première manche.
Patrick Delétro en direct de Beaver Creek, merci beaucoup.
Infotrafic RSR.
Dans le canton de Fribourg, un accident s'est produit et perturbe le trafic dans la localité de Montbovon sur la route principale Bulle-Châteaudet. Un retour à la normale est prévu à 19h30. Sur le reste du réseau routier, bouchons et ralentissements persistent sur les tronçons suivants. Sur l'axe Lausanne-Pontarlier, entre la jonction des Clés et le poste de douane de Valorbe en direction de la France. Sur l'autoroute Genève-Lausanne, à la sortie de Copé en direction de Lausanne. Sur le contournement de Genève, entre Vernier et le tunnel de Vernier. Ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. Tout comme en sens inverse d'ailleurs entre Mérin et l'aéroport de Genève. Voilà qui est complet. Deux invités, deux historiens, je le disais, avec nous dans nos studios. Olivier Meuvely qui est avec nous. Et puis notre correspondant à Berne, Christian Favre, historien également, auteur d'une thèse sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Avec vous, messieurs, on va s'intéresser à la personnalité du général Guisan. La personnalité historique, bien sûr. Une fois de plus, le voilà désormais personnalité romande du siècle. Hein, c'est le roman du siècle. C'est la majorité des 20 000 personnes qui ont téléphoné à la TSR samedi soir qui l'ont décidé. C'était un sondage de l'illustrer. En 2011, Olivier Meuvely, Guisan, toujours, symbole de l'unité, de la résistance. Vous, ça vous a surpris ?
Oui. Oui, c'est assez intéressant. Ça pose en effet pas mal de questions. Pourquoi subitement ce retour de flamme en faveur du général ? Bon, il faut aussi voir, il faut remettre ce concours dans son contexte. Comme ça a été dit, c'était uniquement un concours. On ne sait pas très bien qui a téléphoné, qui a voté.
Vous avez l'impression que ce sont des aînés qui ont appelé, par exemple ?
Sans doute. Mais il n'empêche que ça pose des questions justement par rapport à cette relation à l'histoire suisse. Comment cette histoire suisse a été ressentie? Elle a fait l'objet de nombreuses discussions. Elle a eu, et ces discussions ont eu des impacts politiques très précis qui ont contribué à remodeler le paysage politique que l'on connaît aujourd'hui. Et on a vu petit à petit des résistances, des réactions, d'autres discussions apparaître. Une récente biographie de Guisan par Jean-Jacques Langendorf et Pierre Streit est un véritable succès de librairie. Mmh. Toute proportion gardée.
Ici, ouais.
Et ça montre bien que tout à coup, après tous ces débats très politisés des années 90, il y a eu un retour d'intérêt pour le bonhomme, pour le personnage, pour ce qui l'entourait, pour un autre regard aussi sur la Suisse pendant cette période-là. Et peut-être aussi que dans ces périodes troublées, l'image du général a quelque chose de rassurant.
On peut dire qu'on est revenu sur le personnage, peut-être pour essayer de tenter de voir qui était vraiment l'importance aussi du général Guisan, mais que son importance historique, on l'a gardé pour les scientifiques, pour les historiens, l'importance de Guisan.
Mais c'est quand même le personnage central de l'histoire suisse, un des personnages centraux en tout cas, vu qu'il dirige l'armée. Donc forcément, son rôle historique est incontestable. Dès lors, après, s'enclenche toute la logique scientifique sur l'ampleur du rôle, sur les qualités et les défauts qui ont été justement très largement mis en avant ces derniers temps. Et tout à coup, il y a ce sentiment de rééquilibrage, aussi ce sentiment de lassitude par rapport à toutes les attaques dont l'histoire suisse, durant cette période en particulier, a fait l'objet. Et il y a eu un besoin aussi qui s'est fait ressentir de rééquilibrage ou en tout cas de regard diversifié.
Enfin, c'est un balancier, on n'arrive jamais à être complètement sobre ou neutre en histoire, on va trop dans un sens, on revient dans l'autre souvent.
C'est tout le problème de l'histoire. L'histoire aimerait bien en tant que telle être désinstrumentalisée, si vous me passez l'expression, ne pas être objet de querelles politiques ou de débats de ce type-là, mais il faut être réaliste. Vous parlez tout à l'heure de la Russie, on voit bien aussi les rapports par rapport à l'histoire, la place de l'histoire, inévitablement, quand il s'agit de faire de la politique. L'histoire n'est jamais loin, d'où aussi un avertissement constant pour les historiens. Attention à ce qui va être dit et comment ça va être dit, car les dérives ou les prolongements aussi politiques sont inévitables. Mais il faut aussi être réaliste, l'histoire contemporaine est forcément l'objet de luttes politiques, car la politique s'inscrit automatiquement dans l'histoire des peuples et dans un quotidien qui est lui-même nourri. Et c'est peut-être cette connexion-là qui est souvent négligée aujourd'hui et oubliée.
Christian Favre, vous avez entendu, Olivier Meuvely était surpris, général Guisan, en roman du siècle. Vous, votre réaction, c'est quoi ?
Disons, moi, j'étais pas beaucoup surpris de voir les romans très impressionnés encore aujourd'hui par la personnalité, par la figure du général Guisan. Ce qui me dérange un petit peu à travers ça, c'est qu'on a l'impression qu'une certaine vision de l'histoire qui a imprégné plusieurs générations de Suisses depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale reste encore attachée à ce mythe du général auquel on a identifié la Suisse qui a résisté à l'Allemagne nazie, qui a réussi à maintenir sa neutralité durant la guerre. Ce qui est un petit peu dérangeant pour un historien, c'est de constater que malgré les efforts qu'on qu'on a fait pour porter un regard nouveau sur notre histoire, on en reste quelque part à cette image qui est un petit peu figée. J'ai beaucoup aimé les mots d'Olivier Meuvely en appelant un peu à l'intelligence, à écouter les générations, cette histoire qui se renouvelle, qui se répète. Et là, on est un petit peu sur un vieux disque quelque part.
Oui, mais attendez, Christian Fa, parce que, on a peut-être un peu fait des hagiographies de Guizan, on l'a utilisé comme mythe, mais enfin, la Suisse a peu de rapport avec l'histoire, souvent elle est un peu en marge. Lui, vraiment, c'est un homme qui était au centre, qui était général, il y avait l'Allemagne, il fallait négocier, il fallait s'arranger, il fallait essayer de tenir tout ça. Peut-être que lui-même a joué sur le mythe, a compris qu'il fallait qu'il ait une bonne image dans la population. Le rôle, quand même, il est là.
Moi, je pense que le personnage, il faut pas minimiser son rôle et son importance. C'était quelqu'un qui était très proche des gens, très proche des Suisses. Il a su insuffler un certain esprit à ses contemporains et sa personnalité, pour ça, doit être tout à fait remarquée. C'est important. Ce qu'il faut pas oublier, par contre, c'est que même si le personnage a très bien su jouer de son image durant la guerre, il a été utilisé aussi à la fin de la guerre, déjà même pendant la guerre, et Monsieur Meuvely peut confirmer, par l'histoire officielle qu'on a fait véritablement celui qui a symbolisé l'esprit de résistance de la Suisse. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. L'idée, c'est pas de ternir le personnage, mais c'est un petit peu de remettre à égalité, finalement, l'histoire qu'on a construite avec cette figure.
Remettre à égalité, ça me fait penser à plusieurs débats qu'on a eus sur l'histoire et notamment l'enseignement de l'histoire aux jeunes générations. Et puis certains peuvent déplorer parfois qu'on ait un rapport très distancé, presque frileux avec les personnages historiques. Si on compare avec l'enseignement de l'histoire en France ou en Angleterre où on porte au nu comme ça les grands personnages, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant quand même, ce retour presque aux sources identitaires qui est très peu suisse généralement. Est-ce que vous ressentez ça, Olivier Meuvely, finalement cette envie, on parlait des ouvrages qui marchent bien, tous ceux qui vulgarisent justement l'histoire de la Suisse aussi fonctionnent très très bien. Il y a besoin finalement d'avoir des personnages comme ça qui témoignent de qui on est en tant que Suisse. Il faudrait peut-être l'accepter finalement.
Alors absolument, c'est un des grands problèmes aussi de l'histoire suisse, cette grande difficulté d'entrer en matière sur les personnages qu'ont fait l'histoire suisse. Sans même les héroïser, excusez-moi, mais l'art de la biographie historique en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, c'est une branche historique qui est bien reconnue. Et de grands historiens se passent tous quasiment par l'étape d'écrire une biographie. En Suisse, c'est beaucoup plus rare. L'histoire officielle a beaucoup plus de peine avec les biographies. C'est vrai que le système suisse, par les cantons, etc., ça dissémine quelque peu.
Je croyais que c'était dépassé, les biographies en histoire.
En Suisse... En Suisse, ça, c'est le discours qui est resté. Mais quand on voit en France la production française, la production anglo-saxonne, voire également allemande.
Enfin, René Raymond, tout ça, on regarde les causes sociales, la macroéconomie, que les personnes.
Oui, René Raymond a été quand même celui qui, dans ce contexte que vous évoquez maintenant, René Raymond a justement été celui qui a essayé de remettre au goût du jour l'histoire politique. Non pas l'histoire purement événementielle ou l'histoire bataille, comme on disait, mais redonner son sens à l'histoire politique par une intégration politique avec les grands courants que vous évoquez. Et à travers cette histoire politique, c'est l'histoire des partis politiques que je connais bien, l'histoire des personnages aussi. Et en Suisse, on a eu plus de peine aussi à accepter ce retour, non pas en arrière, mais de mieux combiner ces différentes approches pour rester dans cette structure historique que vous évoquiez. Et alors là, à travers lesquelles les personnages sont complètement écrasés. Et puis aussi, les nuances de l'histoire sont écrasées aussi parce que le rouleau compresseur idéologique était aussi par là. Et c'est aussi un des thèmes qui fait que l'histoire doit être, hélas peut-être, mais c'est un fait, doit être thématisée par ceux qui font de la politique. Car c'est à travers l'histoire aussi que les partis continueront toujours, je crois, à expliquer réellement qui ils sont.
Mais Christian Fa, vous, en tant qu'historien, ça vous dérange justement cette lecture de l'histoire à travers ces grands personnages ?
Ce qui me dérange, c'est pas la lecture à travers les grands personnages. Ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'attrait de l'histoire suisse et de son intérêt auprès des jeunes générations. Si la personnalité d'un Guizan, elle peut permettre aux jeunes de s'y intéresser davantage, si elle peut remplir les facultés d'histoire de nos universités, c'est une très bonne chose. Ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'on constate surtout que les personnes qui se sont attelées à revoir notre position durant la Deuxième Guerre mondiale, pour citer le rapport Bergier, par exemple, elles ont suscité, elles aussi, par leurs conclusions, par leurs travaux, un immense intérêt pour l'histoire suisse, mais qui n'étaient pas toujours très bien intentionnées. Quelque part, elles avaient l'impression que ces gens-là, avec le nouveau regard qu'elles ont porté sur la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale, elles avaient terni l'image, elles avaient trahi une génération de Maubards qui s'étaient engagés pour la défense du pays. Et cet intérêt de l'histoire, il est né aussi pour essayer de répondre, donner la réplique à ces historiens qui auraient sali l'image du pays. Et cette vénération aujourd'hui qu'on peut observer parfois du général Guisan, elle est un petit peu accolée à ce genre d'idées, et c'est ça que je trouve un petit peu dérangeant. Ce que j'aimerais juste encore souligner, ce que je trouve tout à fait intéressant par rapport à la personnalité de Guisan, on parle toujours de distance critique avec l'histoire, cette nécessaire distance à avoir pour bien comprendre les événements. Guisan, c'est peut-être aussi un des événements qui a le plus marqué la Suisse romande durant ces 50 dernières années. C'est son enterrement, juste après sa mort, 300 000 Suisses qui sont descendus dans la rue à Lausanne pour dire au revoir à son cercueil. C'est ces éléments-là qui véritablement ont marqué l'histoire collective et qui expliquent aussi pourquoi aujourd'hui Guisan est véritablement une figure, en particulier en Suisse romande.
Je vous remercie beaucoup Christian Favre, notre correspondant à Berne, historien, docteur, auteur d'une thèse sur cette période, sur les frontières notamment. Vous avez reçu pour ça Christian Favre. Olivier Meuvli, on vous présente plus, historien également. Et merci beaucoup à tous deux, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci pareillement.
Et puis trois invités avec nous pour parler d'Europe et en particulier de la France et de l'Allemagne. Ce sera Jean Quatremer, correspondant pour Libération à Bruxelles, auteur de blog assez remarqué sur la question, parfois écrit la polémique, notamment avec Arnaud Montebourg. Gilbert Casassus, historien, spécialiste de la construction européenne, auteur d'une tribune « Peut-on critiquer la politique allemande et être germanophile ?» C'est dans Marianne. On va tenter peut-être éventuellement de répondre à cette question. Joachim Van Ham, côté allemand, politologue dans un groupe de réflexion chez Bertelsmann. Nathalie Ducommun, sur ce front européen qui bouge beaucoup ces derniers jours, on en est où aujourd'hui ?
Alors, effectivement, semaine importante. On reprend juste depuis hier, parce que c'est comme ça qu'elle a commencé les déclarations du couple franco-allemand, en faveur notamment de ce nouveau traité d'ici fin mars, engageant soit les 27 États membres de l'Union européenne, soit les 17 pays de la zone euro. Alors aujourd'hui, eh bien le front commun d'hier n'a pas vraiment rassuré en termes économiques. Standard & Poor's a d'emblée annoncé qu'elle allait réfléchir à la baisse des notes des pays de la zone euro, France et Allemagne compris, et en conséquence, elle a placé aujourd'hui sous surveillance négative la note du Fonds de secours européen. La réaction était immédiate. Une partie de la majorité gouvernementale allemande crie au complot américain contre la zone euro. De quoi alimenter les discussions jeudi et vendredi, puisque ce sera la rencontre des 27 chefs d'État.
Ouais, complot anglo-saxon, ça c'est un peu des derniers développements. On a vu aussi quelques résurgences de vieux clichés anti-allemands surgir ici ou là. Gilbert Casassus, peut-être commençons par ça. Vous dites, peut-on critiquer la politique allemande et être germanophile ? Vous trouvez qu'on est un peu trop sévère avec ceux qui invoquent Bismarck ou l'Europe allemande contre Madame Merkel ? Ils parlent de France en général.
Alors il ne faut pas confondre les points de vue. Je considère qu'en effet, comparer Madame Merkel à Bismarck, parler de Daladier, c'est exagéré, c'est faux, c'est historiquement faux, et ça ne dessert que les auteurs de cette position, et ça sert curieusement Madame Merkel. En revanche, il est indispensable de critiquer Madame Merkel dans sa gestion de la crise de l'euro depuis le début de la crise grecque. La manière dont Madame Merkel s'est saisie de ce dossier, c'est une manière extrêmement allemande, pro-allemande, et pas du tout européenne, loin de là, et elle a mis souvent ses principaux alliés en porte-à-faux. Sa position est de plus en plus critiquée, elle a été critiquée hier par l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, elle est critiquée par un certain nombre d'autres chefs d'État et de gouvernement. On peut en effet être germanophile et attaquer la politique de Mme Merkel, et le meilleur exemple vient d'être livré dans un discours flamboyant, extraordinaire d'Helmut Schmidt, qui a près de 93 ans, s'en est pris à la frime nationale allemande dont fait preuve Mme Merkel.
Oui, François Hollande était là le jour d'après. Jean Quatremer, Gilbert Casassus dit, bon, Merkel veut faire une sorte d'Europe allemande, elle impose à la manière allemande. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette vision ?
Pas véritablement. Le problème principal du couple Merkozy, c'est d'avoir échoué. Parce qu'ils ont voulu en fait gérer une crise financière comme on gère une crise diplomatique, c'est-à-dire en faisant des compromis. Or, en l'occurrence, il n'y a pas de compromis possible quand on doit lutter contre des marchés financiers qui se défient de la zone euro. Un exemple merveilleux a été offert hier, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a défait l'accord franco-allemand de Deauville du mois d'octobre 2010, il y a un an. Il faut se rappeler, à l'époque, les Allemands avaient accepté la demande française que les sanctions financières contre les États qui dérapent dans les finances publiques, ne respectent pas le pacte de stabilité, peuvent faire l'objet, ne soient pas automatiques. Et en échange, les Français avaient accepté que les dettes de la zone euro puissent être restructurées. C'est cet accord qui a déclenché la panique générale des marchés financiers et la contagion à l'ensemble de la zone euro. Et hier, un peu piteusement, le couple Merkozy est revenu dessus et a défait Deauville en disant non, on vous jure, la Grèce, ça restera une exception. Il n'est plus question de restructurer une dette de la zone euro et par ailleurs, les sanctions seront automatiques. Donc c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Europe allemande ou une Europe française, il y a des compromis diplomatiques et ces compromis diplomatiques ont montré qu'ils étaient tout à fait nuisibles.
Joachim Van Ham, on dit compromis diplomatique, Jean Quatremer. Hein. Est-ce qu'on a quand même l'impression que dans ce coup Merkozy, c'est Merkel qui porte la culotte. On a l'impression que c'est plutôt elle qui fait passer un peu plus ses projets.
Il y a un oui et un non dans ma réponse. Le oui concerne tout à fait ce qu'a bien décrit Jean Quatremer tout à l'heure. Le non, c'est qu'il faut voir que Merkel est poussée un peu par tout le monde. Et je ne parle pas des critiques que vous avez mentionnées tout à l'heure. Je parle de sa propre coalition. Elle a un grave problème à l'intérieur de la coalition. Je pense à notre cour constitutionnelle qui l'a poussée plusieurs fois dans des directions qu'elle aurait préféré ne pas prendre. Oui. Je pense également, bien entendu, au marché. Je pense aux banques allemandes. Je ne parle pas de la banque comme ça, mais si vous regardez un peu la relation assez tourmentée entre elle et le patron de Deutsche Bank en Allemagne, vous voyez que elle a beaucoup plus d'adversaires, voire d'ennemis, oui, que d'amis dans ce jeu-là. Et ce qui est le résultat assez paradoxe et bizarre, oui, c'est que Merkozy s'est constitué, oui, parce que on connaît très bien les deux caractères, on connaît très bien les différences des points de vue sur pas mal des chapitres, oui, autre que la crise de la zone euro, je mentionne que la guerre en Libye. Et soudainement, Jean Quatremer a tout à fait raison, oui, de parler de Merkozy. Oui, ils vont main dans la main dans cette aventure qui est assez inédite. Et ça, c'est peut-être l'argument que moi j'aimerais avancer en faveur des deux. Oui, les hommes politiques, les femmes politiques dans cette crise-là, ils avancent dans des forêts vierges, oui, qu'ils n'ont jamais touchées avant, qu'ils n'ont jamais pénétré avant.
Gilbert Casassus, quand vous mentionnez le discours de Helmut Schmidt en disant oui, effectivement, lui-même critique Angela Merkel trop arrogante au fond, trop ce côté frondeur, qu'est-ce qu'il y a dans les déclarations d'Angela Merkel qui témoignent de cela? C'est la plus grande économie d'Europe, elle prend les décisions pour défendre les intérêts de l'Allemagne, selon elle, certes, c'est une vision politique, mais en termes de déclarations, est-ce qu'elle est vraiment arrogante?
Alors, peut-être que dans les déclarations...
Gilbert Casassus, d'abord. Ouais.
Voilà,
allez-y. Allez-y, M. Casassus.
Oui, non, je ne pense pas que c'est l'arrogance de ces déclarations. Par contre, c'est certaines prises de position allemandes qui ont posé problème. Rappelons-nous du discours de Nicolas Sarkozy il y a quelques années devant le Parlement européen, où il a dit « il faut une gouvernance économique ». Il faut un gouvernement économique. Lorsque certains économistes, et non des moindres, disent qu'il faut de la croissance économique pour la zone euro, lorsqu'on a de la part d'un certain nombre de pays qui disent c'est quand même l'Allemagne qui a le plus profité de l'euro, là, il n'y a jamais eu de réponse de la part du gouvernement allemand. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté véritablement politique de mener une politique, je suis capable de dire, vis-à-vis des marchés. Et là, il y a eu une faillite claire et nette, et Mme Merkel porte aussi sa part de responsabilité. Je ne prends que pour simple preuve de ce que j'avance, ce que dit Romano Prodi hier clairement, ce que reproche, c'est que l'on doit assumer le leadership avec responsabilité. Et ce que Romano Prodi et d'autres responsables politiques reprochent à Mme Merkel, c'est de ne pas avoir assumé le leadership avec responsabilité.
Mais en revanche, vous ne lui reprochez pas directement de vouloir assumer clairement un diktat allemand sur l'Europe. Ce n'est pas dans ses intentions cachées.
Ce n'est pas du tout mon vocabulaire. D'accord. Et ce n'est pas le vocabulaire qu'il faut employer. En revanche...
Mais c'est celui qui a été employé notamment par la gauche française. C'est pour ça que
partie de la gauche française...
Je le reprends.
Oui, une partie de la gauche française. Ce n'est pas ce qu'a déclaré hier François Hollande. Au contraire, on a vu hier un événement peut-être pas inintéressant de voir des sociodémocrates et des socialistes français qui n'ont pas toujours été d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, être sur des positions relativement convergentes. C'est-à-dire que la position de Mme Merkel n'est pas non plus la position de l'ensemble des Allemands. Elle est majoritaire, mais ce n'est pas la position des Allemands. Ce qui est important, et quand on parle de Merkozy, je suis un tout petit peu, en tant qu'historien et en tant que politologue, sur mes gardes. Je pense que la relation franco-allemande est toujours une relation d'équilibre. Et cette relation d'équilibre a existé sous De Gaulle et Adenauer, a existé sous Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, et a notamment existé sous Helmut Kohl et François Mitterrand. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritable équilibre franco-allemand, ce qui prouve, et là je donne raison à Jean Quatremer, qu'on défait les plans qu'on a pris, qu'on avait décidé quelques mois ou quelques années auparavant. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y a plus d'équilibre franco-allemand, et parce qu'il n'y a plus d'équilibre franco-allemand, il n'y a plus cette sérénité franco-allemande vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe.
Jean Quatremer, peut-être que Arnaud Montebourg a été un peu maladroit, mais quand il évoque Bismarck, c'est peut-être pas tout faux, parce qu'il faut voir tout ce qu'a fait Bismarck, sans expliquer plus ou moins, avec vous d'ailleurs aussi, mais là l'Allemagne qui profite en quelque sorte, on dit les dettes des États européens, c'est les bénéfices des Allemands, ils sont pas assez, ils essayent d'imposer leur logique qui leur profite.
Moi, pour moi, c'est véritablement un traitement, je dirais, spectaculaire et journalistique au plus mauvais sens du terme que de savoir qui domine dans ce couple. Encore une fois, l'Allemagne a dû renoncer, la coalition conservatrice libérale a dû renoncer depuis deux ans à un certain nombre de ses vaches sacrées dans le traitement de la crise. Il faut voir qu'au départ, l'Allemagne était prête à laisser la Grèce faire faillite. Ensuite, elle ne voulait absolument pas créer un fonds européen de stabilité financière doté de 440 milliards d'euros. Ensuite, elle a dû avaler l'intervention de la Banque Centrale Européenne sur le marché secondaire, ce qui a d'ailleurs provoqué le départ non seulement du président de la Bundesbank, mais du chef économiste allemand de la Banque Centrale Européenne, etc. etc. Donc, il faut voir le nombre de couleuvres que Angela Merkel a dû avaler en deux ans. Donc, moi, ça me gêne beaucoup, cette idée d'une domination allemande, parce que du côté allemand, on peut considérer que le traitement qu'on a de la crise a plutôt été un traitement, je dirais, que jamais l'Allemagne ne pensait devoir un jour adopter. Encore une fois, le point de départ de tout ça, c'est quand même que l'Allemagne a accepté l'euro à condition que chacun fasse ses devoirs chez lui à domicile et soit capable de respecter le pacte de stabilité, c'est-à-dire tienne en ordre ses finances publiques. Pour les Allemands, tout le monde a trahi. On n'a pas respecté ce pacte de départ. Et donc, on est obligé de créer dans l'urgence une union des transferts financiers que l'Allemagne n'a jamais voulu. Donc, moi, je suis très gêné par cette vision, je dirais, un peu germanophobe, où on voit, effectivement, Bismarck, pourquoi pas Adolf Hitler, revenir à la tête de l'Allemagne. Il faut arrêter. L'Allemagne, elle veut être tranquille. L'Allemagne, elle se rêve comme une grande Suisse ou une petite Chine, comme l'a dit un très grand philosophe allemand. Elle ne rêve pas de domination de l'Europe. Elle veut qu'on lui fiche la paix et qu'elle puisse faire ses affaires. Et aujourd'hui, elle est obligée de s'intéresser aux affaires de la zone euro.
Joachim Van Ham, ça vous est d'accord? Elle se rêve en petite Suisse, qu'elle reste tranquille, qu'elle puisse faire ses affaires, l'Allemagne?
Oui, il y a un peu ce réflexe dans mon pays, mais il y a également un autre réflexe qui a pris de la vigueur, je dirais, ces derniers jours et semaines, oui, qui est que vous avez une tendance très forte en Allemagne qui est profondément pro-européenne. Oui. Je ne vous cite qu'un exemple parce que le mot n'était pas encore mentionné. La bête noire des Allemands, oui, c'est le mot Transferunion, union de transfert des moyens financiers entre partenaires de l'Union européenne. Oui. Mais je crois qu'une large partie, peut-être même une majorité parmi les Allemands, ils ont compris d'abord qu'ils sont déjà dans cette union de transfert de moyens, et deuxièmement que eux ils ont effectivement profité, et que maintenant c'est plus qu'un acte de solidarité, c'est un acte d'intérêt allemand, oui, de dire oui et de payer la facture, oui, même si c'est dur, même si c'est parfois mal compris et incompréhensible, mais que ça fait avancer l'Europe dans la bonne direction, qui est vers plus de fédéralisme, vers plus d'intégration, voire vers les États-Unis de l'Europe. J'entends le mot les États-Unis de l'Europe dans le débat actuel, uniquement en Allemagne, oui. Et il y a ceux qui sont carrément pour et ceux qui sont déjà carrément contre.
Ouais, avec une deuxième question, c'est celle d'une Europe à deux vitesses. Qu'est-ce qu'on fait de l'Angleterre, etc. On n'aura pas le temps ce soir d'aborder tout ça. Peut-être juste une question très rapide, Jean Quatremer, parce que vu de Suisse, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. On a l'impression que cette Union européenne, il y a deux pays qui dirigent, on dit ça, le directoire, c'est France-Allemagne. Les petits pays, ils disent quoi? Ils suivent? Ils n'ont pas le choix?
Non, alors là, de ce point de vue-là, vous avez mille fois raison, et ça, le fonctionnement actuel n'est absolument pas satisfaisant. Alors, il satisfait énormément la France, parce qu'au fond, la France, elle voudrait étendre le système de la Ve République à l'Union européenne, ou du moins à la zone euro. C'est-à-dire, en clair, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui dirigent, et à l'intérieur des chefs d'État et de gouvernement, évidemment les plus puissants, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.
Donc là, ça lui fait plaisir en ce moment. Ouais.
Voilà, et sans contrôle parlementaire. Mmh. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et les Allemands ne veulent pas de cela. C'est pour ça qu'ils parlent d'États-Unis.
Pour changer ce système et échapper au directeur. On est obligé de conclure. Je vous remercie beaucoup, Jean Quatremer, Gilbert Casassus, Joachim Van Ham. Une bonne soirée à vous.
Une bonne soirée.
Et la météo, c'est Sébastien Dupéret.
Le courant d'ouest perturbé qui souffle sur la Suisse se maintiendra ces prochains jours. Il s'accentuera même demain sur le nord du plateau. Les rafales pourront atteindre les 80 km/h. En plus de cette atmosphère agitée, il faudra compter avec des pluies touchant l'ensemble des régions. Elles seront particulièrement soutenues le long du Jura et des Préalpes. La limite pluie-neige passera de 600 mètres en début de matinée à 1000 mètres dans l'après-midi. Les températures avoisineront les 1 à 3 degrés à l'aube, alors que dans l'après-midi, elles atteindront 7 degrés environ. Jeudi, après encore quelques précipitations en matinée, une accalmie va se dessiner. Le ciel s'annonce plus changeant, mais l'atmosphère restera venteuse. Les températures afficheront 8 degrés. Vendredi, les conditions se dégraderont à nouveau dans le courant de la matinée. Les précipitations reprendront vers la mi-journée et elles seront à nouveau plus fréquentes le long des Préalpes et du Jura. Ce week-end, nous conserverons un temps le plus souvent nuageux avec quelques averses.
La météo avec Tendance Fruits. Idée cadeau pour les entreprises et privés, tendancefruits.ch.
Infotrafic RSR.
Les averses de pluie et de neige rendent les conditions de circulation difficiles localement. Soyez prudents. C'est ainsi que se termine ce forum. Une recommandation de prudence. Il est 19h sur la première. Une excellente soirée à tous.